15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations. Nous parlons de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au burn-out, une souffrance du travail dont on parle de plus en plus. Avec notre invité, le docteur François Baumann, nous allons apprendre à reconnaître les signes, les symptômes d'épuisement qui doivent alerter et surtout nous verrons que le burn-out n'est pas une fatalité. Il peut y avoir un après bien pris en charge. Les patients peuvent retrouver même un sens à leur vie professionnelle. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, c'est plutôt son éclairage du jour. Il met l'accent sur une initiative positive, une filière spécifique lancée à Lyon pour gérer les urgences chez les personnes âgées. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler d'une maladie génétique rare, héréditaire, l'hémophilie. C'est l'impossibilité pour le sang de coaguler, que se passe-t-il réellement dans l'organisme des patients atteints et quels en sont les traitements. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle répondra à la question d'une jeune femme qui s'interroge sur le sexe oral.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Fanny.
Bonjour docteur Mohamed, bonjour Mélanie. J'avais une petite question, je vous entends souvent parler des hormones, dont l'ocytocine. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour en sécréter plus. Voilà, merci beaucoup.
Alors effectivement Jimmy, on a déjà parlé de l'ocytocine, hormone de l'amour, de l'attachement. Jimmy, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur celle-ci?
Alors c'est une hormone qui est indispensable à notre bonheur et notre bien-être. Elle permet notamment l'épanouissement, le développement, le lien social. Elle est stimulée et sécrétée dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus lorsque nous échangeons des marques d'affection et des paroles bienveillantes. Elle permet aussi de réduire le stress en bloquant la sécrétion de cortisol, mais au niveau du système limbique, donc au niveau cérébral. Et elle permet de réguler nos émotions et d'avoir de l'empathie. Ce serait aussi une hormone responsable de la monogamie. On serait plus fidèle lorsqu'on a de l'ocytocine. Mmh. Et on s'est intéressé à des rats des champs, qui sont très fidèles et qui s'occupent bien de leurs enfants, leurs petits rats plutôt. Mmh. Et on les a comparés à des rats des montagnes, qui sont polygames, qui font un peu n'importe quoi et qui s'occupent mal de leurs enfants. Et en fait, les rats des montagnes n'ont pas de récepteur à l'ocytocine, ce qui veut donc dire qu'ils sont de moins bons parents. Et on s'est amusé du coup, à enlever ce récepteur chez le rat des champs et tout d'un coup, il devient polygame et s'occupe mal de ses enfants. Oh là là. Donc, c'est aussi l'hormone de l'attachement et du lien entre la mère et l'enfant.
Alors, avant d'en venir aux astuces, parce que la question, c'est de demander, elle demande cette auditrice si elle peut en sécréter plus, comment faire. Il faut quand même rappeler que c'est aussi une hormone qui est indispensable pour l'accouchement. Hein.
Exactement. Au moment de l'accouchement, le col de l'utérus se dilate, ce qui entraîne la production d'ocytocine et donc des contractions utérines. Ça sert aussi lors de la délivrance du placenta et de l'expulsion du placenta. Et ça permet une contraction utérine pour réduire le risque d'hémorragie. Au moment de l'allaitement, c'est aussi l'hormone de la lactation pour éjecter le lait. Lorsque le bébé stimule le mamelon, l'ocytocine est fabriquée et ça permet l'attachement de la mère à l'enfant au travers du système dopaminergique. On sécrète de la dopamine au niveau de noyaux cérébraux qu'on appelle les noyaux accumbens. Bref, l'ocytocine, c'est une hormone du plaisir, mais aussi du lien mère-enfant.
D'accord. Alors, avoir un bébé, donc vous nous avez expliqué, ça permet d'en sécréter plus. Mais bon, si Fanny, elle n'a pas envie tout de suite d'en avoir un ou d'en avoir jamais d'ailleurs, il n'y a pas d'autre moyen quand même, Jimmy, pour sécréter plus d'ocytocine?
Alors, si vous l'avez dit, c'est le lien lorsque la maman est au contact de son enfant, elle en sécrète plus. Mais le fait d'avoir des mots doux, sans être pour autant amoureux, d'être bienveillant avec ses collègues, comme avec vous, Mélanie, d'être reconnaissant, le fait d'avoir une parole agréable, réconfortante, permettrait d'avoir un peu plus d'hormones et donc des relations plus affectueuses. Soyez gentil avec tout le monde et vous sécréterez l'ocytocine.
Et au sein du couple, je rajoute qu'il y a les mots doux, vous l'avez dit, les baisers, mais il y a aussi la stimulation sexuelle qui induit une élévation de sécrétion d'ocytocine. Donc il ne faut pas hésiter à faire l'amour très souvent. Ça permet de s'attacher et puis d'avoir plein d'ocytocine, de se sentir très bien. Merci Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Odile du Val-d'Oise. On l'écoute.
Bonjour. J'ai entendu dire que la gelée royale favorisait les cancers. Alors qu'on parle toujours de la gelée royale comme quelque chose de pur, de naturel et qui soigne. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est. Merci. Au revoir.
Alors, la gelée royale, un remède naturel assez répandu. Certains en font même peut-être une petite cure en ce moment pour rester en forme. Jimmy, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement ce que c'est?
Alors, ce n'est pas vraiment du miel, c'est une sécrétion de l'abeille à partir de glandes. Et la reine des abeilles, elle, va se nourrir toute sa vie de cette substance. C'est ce qui fait que son développement est exceptionnel. C'est très riche en vitamines, des acides et notamment les vitamines du groupe B.
Alors, pour savoir précisément quels sont les bienfaits de cette gelée royale, on a posé la question à une spécialiste, la naturopathe Angèle Ferremag. On l'écoute.
Elle a plein de bienfaits. Il faut juste être sûr de consommer une gelée royale qui soit française et bio, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Chine et on ne sait pas trop de quoi elle est composée. Et en fait, les bienfaits sont nombreux. Déjà, elle contient énormément de vitamines, d'acides aminés, de minéraux. Par exemple, elle contient de la vitamine B2 et B8 qui est excellente pour la peau, les cheveux. Elle contient plus de 18 acides aminés. Elle contient du fer, du magnésium, du phosphore, enfin, tout plein de choses. Et on l'utilise notamment dans les périodes de convalescence parce qu'elle contient de la B6 et donc pour la motivation et le regain d'énergie, elle est très intéressante. Alors la gelée royale, l'idéal, c'est de la consommer le matin à jeun en petites dosettes. Donc c'est des toutes petites cuillères. On la laisse fondre sous la langue et il faut vraiment écarter au moins d'un quart d'heure avec le petit déjeuner. On la prend en cure le temps qu'on finisse notre petite boîte ou nos petits sachets. Et c'est très très bien de le faire en ce moment, par exemple, parce qu'elle est excellente pour notamment pour les défenses immunitaires.
Alors Jimmy, on va quand même répondre à la question de Odile. Est-ce que ça, il y a un risque cancérigène avec la gelée royale ?
C'est un peu compliqué comme question. Il n'y a pas de lien clairement établi. En revanche, je sais que ça contient des hormones. Donc attention, si vous avez déjà un cancer, notamment hormonodépendant, prostate, sein ou ovaire, à ce moment-là, il faut limiter l'utilisation et surtout dire à votre oncologue tout ce que vous prenez au régime particulier qui peut avoir un impact sur votre chimiothérapie.
D'accord, donc on évite effectivement des remèdes naturels quand on est traité pour un cancer. Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, comme Odile qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une initiative positive, une filière spécifique pour gérer les urgences chez les personnes âgées. Et puis on accueillera aussi notre invité, c'est le docteur François Baumann avec qui on va tout vous dire sur le burn-out. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur François Baumann avec qui nous allons parler aujourd'hui de burn-out, c'est le moment de Jimmy, c'est son moment de son éclairage. Aujourd'hui Jimmy, vous avez décidé de nous parler d'un dispositif particulier d'accueil des personnes âgées aux urgences générales qui a été testé donc aux urgences de Lyon Sud. Déjà pourquoi un dispositif particulier pour les personnes âgées aux urgences ?
Alors c'est vrai que notre population vieillit et qu'il est donc nécessaire d'adapter notamment le système hospitalier aux personnes âgées. Et il ne faut pas oublier que la pathologie de la personne âgée est spécifique, a des particularités, un peu comme en pédiatrie, nous avons des urgences pédiatriques. Donc pourquoi pas adapter nos urgences aux personnes âgées ? D'autant plus que 40% des personnes âgées de plus de 75 ans ont déjà connu un passage aux urgences et que l'afflux de personnes âgées est souvent une source d'embolisation des services. Un quart des plus de 75 ans souffrent de trois pathologies, dont un tiers a une pathologie cardiovasculaire, ce qui veut donc dire que ce sont des personnes plutôt fragiles et qui risquent de se retrouver assez rapidement ou fréquemment aux urgences.
D'accord, alors comment on peut améliorer cette prise en charge justement ?
Alors trois axes, le premier c'est en amont pour éviter à ces personnes âgées d'atterrir aux urgences. Deuxièmement, c'est une fois qu'on est aux urgences, limiter l'attente car on sait que plus on attend aux urgences et plus le risque de mortalité est élevé, notamment dans certaines pathologies. Mmh. Et puis l'aval, c'est-à-dire en aval, une fois qu'on est hospitalisé, trouver à essayer d'avoir des lits. C'est donc l'objectif de ce dispositif.
Alors expliquez-nous-le, ce dispositif à Lyon.
Alors ils ont appelé ça, ce dispositif, le CUPA, pour cellule d'urgence parcours de la personne âgée. Ça a été lancé par l'Institut du vieillissement des hospices civils de Lyon. Le principe est simple, aux urgences générales, on a une infirmière qui est spécialisée en gériatrie, accompagné d'un gériatre qui est présent dès l'accueil des urgences et qui s'occupe spécifiquement des personnes âgées. Ce dispositif est testé depuis septembre et vous l'avez dit, ça se passe à Lyon Sud.
Et alors comment ça marche ? Est-ce que c'est efficace ? C'est quoi le bilan ?
Le bilan est formidable. Ce dispositif a permis à 80% des patients d'attendre moins d'une heure après son arrivée aux urgences. 38% des patients ont pu avoir un retour à domicile, donc on a évité des hospitalisations qui sont parfois pas nécessaires. Mmh. Et lorsque l'hospitalisation a été reportée, l'infirmière organise et programme les examens, ce qui est plutôt rassurant. Les familles ressortent avec une échéance, on ne rentre pas simplement à la maison. Mmh. Et ils sont rappelés le lendemain pour être sûr que tout a bien été programmé et tout a bien été compris. Ce dispositif fonctionne simplement du lundi au vendredi, mmh, en journée jusqu'à 18h.
C'est un test déjà. Hein, ouais.
Mais ils vont l'élargir en recrutant une nouvelle infirmière et un gériatre supplémentaire, ce qui permet d'élargir la plage horaire. Et ce qui veut donc dire que ce modèle pourrait peut-être être étendu à l'ensemble des urgences.
Là, exactement, c'est ça.
Un pilote qui marche très bien et dont les résultats sont prouvés très efficaces.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur François Baumann, généraliste et psychothérapeute. Il est l'auteur du livre « Éliminer la souffrance au travail » chez Josette Tillon.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Baumann.
Bonjour.
Alors, docteur, dans votre livre, vous parlez de plusieurs souffrances au travail. Nous, on a décidé aujourd'hui de parler uniquement de burn-out. On sera peut-être l'occasion de parler des autres souffrances dans d'autres émissions. D'abord, pour bien comprendre le burn-out, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'il y a vraiment une définition précise? C'est quoi?
Il y a une définition précise qui a beaucoup évolué depuis les 10-15 ans qu'on connaît cette maladie. La définition précise, c'était un syndrome, c'est-à-dire qu'il y avait trois grands symptômes qui devaient, s'ils étaient réunis, définir le burn-out. Le premier, c'est le plus important, et c'est celui qui reste le plus, c'est l'épuisement émotionnel. Ce sont des gens qui sont fatigués de façon chronique, enfin, aiguë d'abord, chronique après.
D'accord. Alors, si on revient même sur la définition du mot travail, je dirais que c'est presque ancré dans l'étymologie du mot travail, la notion de souffrance, finalement. Hein.
Bien sûr. Le mot travail, il traduit une souffrance, puisque c'est un instrument de torture au départ. C'était un instrument qui servait de torture, ou tout au moins qui servait à ferrer certains animaux. Donc, on leur enserrait la patte dans des morceaux de bois, enfin bon, on les faisait souffrir. Et voilà, le travail, c'était ça. Alors, il n'en est resté pas grand-chose au niveau des
aujourd'hui,
fers.
On est plus serré comme des chevaux,
voilà,
c'est ça l'idée.
On est serré dans d'autres circonstances.
Bien sûr. Jimmy ?
On a l'impression que le burn-out, il y en a de plus en plus, que c'est finalement une nouvelle maladie.
Vous envoyez en consultation des gens qui vous parlent de ça.
Des gens qui me disent spontanément, je suis en burn-out, je suis épuisé, je n'en peux plus. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, ou finalement il y en a toujours eu, mais on ne savait pas, on ne connaissait pas, on ne voulait pas savoir ce que c'était?
Il n'y a pas longtemps qu'on donne une définition cohérente quand même sur cette maladie qui est un mal-être, qui est assez vague, qui est difficile. La Haute Autorité de Santé à laquelle j'ai participé pour la définition de ce syndrome n'a pas réussi quand même à donner quelque chose d'extrêmement précis là-dessus, et les académies de médecine diverses et variées ont du mal à reconnaître. Moi, ce que je sais, c'est que concrètement, je vois des gens qui vont pas bien, qui ont les symptômes d'un burn-out, et après, est-ce qu'ils utilisent le terme de façon excessive et galvaudée? C'est possible.
Est-ce qu'on a une idée de la fréquence dans la population du burn-out?
Ah oui. Oui, et on a l'impression que ça augmente, effectivement. Les derniers chiffres qui ont été donnés, c'est de l'ordre de 30 à 35% de la population qui dit avoir connu un burn-out.
C'est énorme, 30 à 35%.
C'est énorme. Et moi, je vois ça, puisque je donne des cours à Necker, enfin à Paris 5, et je vois l'amphithéâtre des étudiants, quand on leur demande qui a eu un burn-out, et on voit quand même, effectivement, à peu près un tiers des étudiants qui le disent, voire un peu plus d'un tiers. Donc c'est très inquiétant à ce niveau-là.
Alors, on n'en a pas terminé, docteur Baumann, vous restez avec nous dans un instant. On passe donc au concret, comment reconnaître un burn-out professionnel? Quels sont les signes d'alerte? D'ailleurs, y a-t-il des métiers ou même des profils de personnes plus à risque d'épuisement professionnel? On vous dira tout.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur François Baumann, généraliste et spécialiste des souffrances professionnelles. Alors docteur, avec vous, aujourd'hui on fait le point sur le burn-out. Et dans votre livre, pour illustrer, vous décrivez pas mal de cas de patients qui en ont souffert. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un burn-out. En fait, il y a vraiment des burn-out qui ne prennent pas toujours la même forme.
Oui, c'est effectivement assez difficile de classer ce mal-être qui part un peu dans tous les sens. C'est pour ça que les gens sont un peu perdus quand ça leur arrive, et que les médecins aussi d'ailleurs. Et on essaye de serrer les questions. Moi, ce que je sais, c'est que concrètement, je vois des patients qui souffrent à peu près tous de la même chose quand même, c'est-à-dire une espèce de grande dépression. C'est une dépression réactionnelle. Souvent, le burn-out, en tout cas, un excès de travail, alors que les autres dimensions de la souffrance au travail, ça peut être de l'ennui, ça peut être de non-sens.
Ce qu'on appelle le bore-out ou le brown-out, on en parlera peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, c'est burn-out.
Et la première personne, le premier cas que j'ai vu, c'était quand même, pour moi, médecin généraliste quoi, de quartier, c'était très étrange.
C'était quoi?
Parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voyais d'habitude. C'était une personne d'une trentaine d'années qui disait que tout à coup, brutalement, elle n'arrivait plus à sortir de son lit, elle n'arrivait plus à aller au travail, que l'idée même du métro, n'en parlons même pas de son travail, il la faisait pleurer à chaudes larmes et qu'elle ne pouvait plus s'arrêter.
Ça ressemble à une dépression, voilà. Mais en quoi c'était un burn-out et pas une dépression classique?
Parce que c'était une dépression, j'ai dit réactionnelle, c'est réactionnel à son travail, c'est-à-dire à l'ambiance de son travail, alors que peut-être elle pouvait parler du cinéma, et puis... son humeur revenait bonne.
Jimmy ?
Est-ce qu'il peut y avoir des symptômes physiques liés au burn-out ? Et je vois parfois des patients m'expliquer qu'ils font plein d'infections. Bizarrement, ils enchaînent les gastro, les otites, les bronchites, les laryngites, alors que d'habitude, ils vont bien. Et lorsqu'on creuse un peu l'interrogatoire, ils sont un peu épuisés, ils sont un peu surmenés, notamment avec peut-être un début de burn-out. Est-ce qu'on a du coup des symptômes physiques en plus des symptômes psychiques ?
Tout à fait. Les symptômes physiques sont ce qui alarme le plus les gens, je pense. Et ce sont les premiers signes, je pense, sont des baisses de résistance, on va dire. Des résistances aux infections, par exemple. Ce sont ces gens qui vont 3-4 fois par mois voir un médecin généraliste, par exemple, parce qu'ils ont des rhinopharyngites. Ça paraît un peu beaucoup. Et puis on se demande pourquoi vous avez ça, pourquoi c'est pas tout le temps les virus. Bon, on est moins résistant. Voilà. On peut avoir, et surtout, on a les crises de larmes, ça c'est quand même un signe très très récurrent, et puis des insomnies.
Et les crises de larmes, elles ont lieu sur le lieu de travail ou pas forcément ?
Oui, elles se déclenchent en général dès qu'on parle du travail. Elles peuvent ne pas avoir lieu quand on s'occupe de ses enfants, qu'on va au spectacle, etc.
Mais... D'accord. Mais ça, ça peut avoir des crises. Dès qu'on parle un peu de travail, ça peut arriver. C'est toujours quelqu'un qui croule vraiment littéralement sous le travail, ou ça peut être une souffrance ou autre liée à la hiérarchie ou à la pression qu'on se met.
Oui, le burn-out est lié quand même au surmenage et au stress. Mais le stress, il peut venir de partout. Il peut venir d'un excès de travail, bien sûr. Ce sont des gens, souvent, la personnalité des gens en burn-out, qui font des burn-out, est une personnalité très particulière. Ce sont souvent des gens très perfectionnistes, qui aiment beaucoup leur travail. Ce ne sont pas du tout des flemmards qui ont envie de s'arrêter. Mmh, pas du tout.
C'est pas ça.
Ce sont des gens qui en font trop. Ils rentrent chez eux, ils ont sous le bras leur ordinateur, machin. Et pendant les vacances, ils ne le quittent pas. Voilà. Donc, c'est particulier.
Jimmy ?
Donc, fatigue, stress, surmenage, insomnie. Pendant combien de temps on peut avoir ces symptômes latents avant d'exploser ? Parce que le burn-out, on a le sentiment d'épuisement. Donc combien de temps on peut tenir avant d'arriver au bout du bout et de ne plus pouvoir du tout aller travailler ?
Vous avez raison, c'est long. Ce qui explique qu'on voit des gens qui sont déjà assez avancés dans leur épuisement. Parce que quand on les interroge, ils ont commencé il y a longtemps à ne pas dormir, commencé à faire des colères brutales, comme on le voit souvent dans les dépressions. Et c'est... Le temps lui-même est difficile, il est relatif à chaque personne et au type de surmenage, mais ce sont plusieurs mois quand même, c'est ce qu'on peut répondre.
Et donc, vous disiez qu'il y a un profil de personnes, donc ce sont des gens souvent très consciencieux, mais est-ce qu'on sait si par exemple il y a plus d'hommes, plus de femmes, ça c'est genré ce problème-là ou pas ?
Oui, on sait qu'il y a plus de femmes.
Ah bon ? Et comment on l'explique ça ?
Alors, je pense que... Il faudra employer un terme à la mode d'excès de travail, je cherche le mot, mais parce qu'une femme, on le sait tous... Enfin,
plusieurs journées de travail, en fait, c'est
voilà,
ça.
Ouais. En une, donc elle s'épuise plus facilement. Elle est peut-être plus résistante, j'en sais rien, mais enfin bon, j'aime pas beaucoup ce distinguo. Ce qu'on sait par contre, c'est vrai que la charge mentale...
Voilà, c'est la charge mentale.
...est plus forte et que ça peut expliquer un épuisement. Et puis elle résiste longtemps.
Est-ce qu'il y a aussi des boulots, des secteurs professionnels, on va dire, dans lesquels il y a plus d'épuisement professionnel, de burn-out ?
Oui. Au début de cette maladie, on disait souvent que c'était des gens qui étaient dans l'aide aux autres. C'est-à-dire dans l'attention vers les autres. Et qui
s'épuisaient très vite. Les professionnels de santé, par exemple.
Les professionnels de santé. Et par exemple, plus les aides-soignantes que les médecins, parce qu'ils étaient plus proches. On décrivait ça. Et puis après, moi, je l'ai vu. J'ai vu monter ça comme une épidémie.
Jimmy ?
Et est-ce que ce burn-out peut aller jusqu'au suicide une fois qu'on a essayé parfois d'arrêter le patient, lui donner des traitements ? Est-ce que ça peut, comme dans une dépression sévère, conduire au suicide ?
Bien sûr. Ça conduit au suicide. Ce sont des suicides assez, je dirais, silencieux. Parce que comme c'est des personnalités très, je l'ai dit tout à l'heure, assez spéciales par rapport à ça, qui n'aiment pas trop s'exposer, se plaindre. Au contraire, ils ne se plaignent pas et ils arrivent au bout et ils tombent comme un arbre déraciné qui tomberait tout d'un coup. Voilà. C'est ça qu'on voit et c'est ça qui est tragique.
Pourquoi les soignants, vous disiez, les gens qui sont en aide à la personne, c'est parce qu'il y a une implication un peu plus importante que dans d'autres métiers, on y met tout son cœur, tout son... Bon, ça ne veut pas dire que les autres ne mettent pas leur cœur dans leur travail, mais...
Ça a été vrai au début, puisque ça a été décrit chez des soignants qui s'intéressaient particulièrement aux enfants cancéreux, par exemple. Donc, ils s'impliquaient beaucoup, qui étaient vraiment dans la compassion, peut-être plus que dans l'empathie. On apprend depuis, on fait des cours à Paris 5 sur l'empathie, pour ça, pour apprendre aux étudiants à ne pas se brûler. Burn out.
Très bien. Docteur Baumann, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler évidemment du traitement du burn-out, parce que oui, ça se soigne, ça se traite, il peut même y avoir un après professionnel qui peut être épanouissant, dans lequel on retrouve même du sens, du plaisir. On va vous dire comment on peut y arriver. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur François Baumann, généraliste et spécialiste des souffrances professionnelles. Alors, docteur Baumann, aujourd'hui on fait le point sur le burn-out avec vous et à présent vous allez nous expliquer comment on fait pour s'en sortir, parce qu'on peut en guérir. Je crois que quand même la prise en charge de ce burn-out, elle dépend quand même du stade de la maladie, de l'avancée du burn-out. En gros, plus on se fait soigner tôt, c'est comme pour beaucoup d'autres maladies, hein, mais plus c'est facile de s'en remettre, c'est ça?
C'est ça, plus on prend conscience de son état d'épuisement, parce qu'il faut en prendre conscience, c'est pas évident. Il y a des gens qui c'est vraiment marche ou crève, quoi. Ils avancent et, parce qu'on leur a appris comme ça. Et donc plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et alors, à l'inverse, quand c'est pris relativement tard, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, parfois, on a beaucoup de mal à sortir les gens, parce que ça reste un petit peu imprimé dans leur inconscient, dans leur conscient aussi. Et là, ça devient très difficile.
Alors on va commencer par peut-être le stade le plus précoce, le pré-burnout, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. D'abord, il faut faire quoi pour éviter de basculer vers quelque chose de plus grave? Justement, c'est quoi le pré-burnout?
Le pré-burnout, ce serait... C'est aussi, ce sont des hypothèses, hein, c'est le début. Donc des symptômes, on va dire quelqu'un qui tout d'un coup se sent triste, quelqu'un qui se met en colère facilement, ce qu'on a dit tout à l'heure,
lié au
qui présente des signes de dépression liés au travail. Il va s'énerver dans son bureau alors que d'habitude il ne le fait pas. Et ce sont souvent les collègues d'ailleurs qui le signalent, parce que soi-même on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc à ce moment-là, on essaye de prendre en charge la personne. Soit elle accepte à un stade précoce d'aller consulter un médecin, ce qui n'est pas évident, parce que pour elle a rien. Je veux dire, voilà.
Mais
soit on l'emmène, son mari, sa femme ou ses collègues l'emmènent chez le médecin et expliquent qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Et voilà. Et à ce moment-là, on peut la prendre en charge, soit thérapeutiquement avec des médicaments faiblement dosés.
Soit l'arrêt de travail.
Soit l'arrêt de travail. Voilà.
Ça, c'est fondamental, hein, l'arrêt de travail.
D'ailleurs, j'ai vu une patiente la semaine dernière qui avait fait une banale chute en allant au travail. Elle a une cinquantaine d'années, elle se fait une petite entorse bénigne, mais elle m'a dit bizarrement après cette chute, j'ai dormi 2 fois 14 heures de suite, alors que finalement la chute était sans conséquence, elle n'avait pas été agressée. Et elle me dit, mais je suis vraiment fatiguée. Du coup, je lui ai dit, écoutez, je vais vous arrêter 10 jours. Et elle dit, mais je ne comprends pas, 10 jours, j'ai qu'une petite entorse, ce n'est pas justifié. Je dis, mais je pense que vous êtes épuisé, je pense que vous avez besoin de repos. Et elle s'est mise à pleurer à ce moment-là et me dire, effectivement, je pense que mon travail me mange. Mais elle l'a mis du temps avant d'accepter. Les patients refusent cet arrêt maladie alors qu'il faudrait peut-être l'accepter plus facilement.
Oui, il faudrait l'accepter plus facilement. Ce n'est pas dans la mentalité de la majorité des gens. Moi, je considère l'arrêt de travail comme un instrument thérapeutique. Et surtout dans ce cas que vous décrivez, c'est exactement ça. L'entorse, d'abord, qui est le signe révélateur, mais on a parlé tout à l'heure, ça pourrait être des rhinopharyngites à répétition, ça pourrait être n'importe quoi de traumatisant. On se fait mal sans savoir trop pourquoi. Et puis après, c'est au médecin de saisir, le médecin, surtout le médecin traitant, parce qu'il connaît bien la personne, il s'aperçoit qu'elle décline et il va l'arrêter. Et
on les extrait du milieu hostile, en quelque sorte, pour éviter qu'il soit...
Bien sûr. Et puis ça fait réfléchir. Vous disiez tout à l'heure, et j'ai trouvé ça intéressant, de dire, c'est un moment de la vie, ce burn-out, c'est une occasion, peut-être, c'est péjoratif, mais on a envie quand même de faire le point. C'est un moment de s'arrêter, de faire le point sur sa vie. Et souvent, les gens qui s'en sortent, beaucoup s'en sortent quand même, disent, ça a été une expérience positive. In fine.
Mais pourquoi ils ne veulent pas s'arrêter de travailler? Vous dites, l'arrêt de travail, c'est central dans le burn-out, c'est le début du traitement. Qu'est-ce qu'ils vous disent les patients en consultation quand ils refusent? C'est quoi leur argument de refus?
Il y en a un qui est très simple, c'est sur mon bureau, j'ai une petite pile de papiers et de dossiers. Si vous m'arrêtez, ça va être une très grande pile et je vais être encore plus épuisé après. Donc, m'arrêtez-moi un jour ou deux, mais pas plus, ce serait pas bien. Et après, une question d'orgueil personnel.
Vous dites, vous voyez Jimmy hocher la tête, vous entendez ça aussi.
En disant que la charge de travail m'attend à mon retour.
Ça sera pire, c'est ça.
Ça sera pire, et donc si je m'arrête, je vais être encore plus stressé. Donc ça nourrit le stress, ils refusent, ils ne s'arrêtent pas assez, parce que parfois je leur dis, il faut remettre les compteurs à zéro. Reposez-vous une semaine, vous serez bien plus performant. Et vous l'avez très bien dit.
Une semaine, vous êtes optimiste. Une semaine, c'est une fatigue passagère. Bon. Peut-être le début, comme on disait tout à l'heure.
Pré-burnout.
Mais même un peu plus. Mais
vous,
c'est
les arrêtez plus longtemps. C'est 15 jours au moins, même en pré-burnout,
15 jours minimum,
comme ça. Ouais.
Et ça va. Oh oui, en pré-burnout, oui, 15 jours. Mais après, ça peut aller sur des mois. Il y a des gens qui n'arrivent pas à reprendre. Donc l'idée même du travail, c'est traumatisant quand même. Parce qu'en même temps, le travail, vous disiez tout à l'heure, vous demandiez pourquoi, mais le travail est au centre de la vie. Quand on travaille plus, bon, sauf parce qu'on a choisi d'être en vacances, mais sinon, ça fait partie des choses nécessaires pour survivre.
Et vous en avez vu des patients qui ont refusé comme ça, que vous avez suivi, qui ont refusé des arrêts maladie, puis ont refusé la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à arriver à un point de non-retour, ça vous en voyez souvent ?
Oui, on en voit souvent. Et maintenant, c'est à l'habileté du médecin traitant, puis la confiance réciproque entre le médecin et le patient qui va jouer, parce que si on sait qu'un médecin arrête facilement, tout ça, dans tous les coins, bon, on n'aura pas envie de faire ça, on se dira « tu vois pourquoi il fait ça ?» Si par contre on sait que c'est un médecin qui ne vous arrête pas, sauf cas extrême, vous allez céder, vous allez dire « c'est sérieux ».
Pourquoi c'est si important l'arrêt de travail ? C'est vraiment, comme disait Jimmy, une espèce de mesure d'éloignement qui est nécessaire. On s'éloigne du mal, de la chose qui nous ronge, quoi, c'est ça ?
Tout à fait, mais pas seulement de la chose qui nous ronge. On s'éloigne d'un environnement qui est toxique. Il y a des chefs toxiques.
Ça existe, moi j'en ai pas personnellement.
Il y a des métiers toxiques. Bon, donc cette toxicité, il faut l'éloigner. À part, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de s'éloigner. Et l'éloignement, c'est-à-dire la prise de distance, j'appelle ça plutôt comme ça, c'est une partie du traitement. Qu'est-ce que font les médicaments quand on les donne ? Parce que parfois, on peut pas faire autrement que de donner un traitement.
On en parlera juste après, mais c'est ça, hein, effectivement.
Je dirai tout à l'heure.
Alors, on va passer justement au traitement d'un stade un peu plus avancé de burn-out. Là, le burn-out, on va dire, il est avéré, on n'est pas en pré-burn-out, on est vraiment dans le burn-out. C'est quoi ? C'est quand cet épuisement professionnel, il empêche de vivre ? C'est ça la différence, finalement ?
Il empêche complètement de vivre. Il fait perdre les idées, il fait perdre le sommeil. On est obsédé par ce travail, à la fois parce qu'on a envie d'y retourner, mais on en est incapable. Et dès qu'on vous prononce le mot, on se met on est en larmes.
Donc là, arrêt de travail aussi, et un peu plus, non même. Il y a quoi d'autre ?
Ah oui, non, arrêt de travail et médicaments. Moi, pour sortir des gens d'un état dépressif quand même, je donne des antidépresseurs que je choisis parce que je connais très bien ce sujet. Je sais lesquels il faut donner, je sais comment il faut les donner, pendant quelle durée il faut les donner. Voilà, ce sont des traitements qu'on peut arrêter facilement, donc ça a souvent beaucoup d'avantages. Plutôt que ce que je vois souvent, ce sont des gens qui sont sous hypnotiques, tranquillisants.
Ça, c'est une mauvaise idée, le fait, parce que dans l'idée des gens, souvent, j'ai ce discours, quand je les vois pour la première fois, c'est « je suis stressé, donnez-moi un anxiolytique pour être déstressé. Je ne dors pas, donnez-moi un somnifère pour dormir. » Mais il faut leur expliquer que c'est un mauvais traitement. Vous dites que c'est antidépresseur pour le vrai burn-out et éviter ces mesures un peu pansement qui peuvent être délétères.
Ce sont exactement des mesures pansement. Je leur dis souvent, c'est comme si on vous mettait un coup de maillet sur la tête pour dire « bon, bah, dormez ». Non, c'est pas ça le problème, parce que quand on dort pas, quand on analyse un peu la cause de l'insomnie, on voit bien que ce sont des gens qui ruminent. Ils ruminent toute la nuit, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Donc, le somnifère est un pansement. Parfois, on a besoin de pansement quand on a une plaie. Mais pourquoi pas ? Mais il ne traite pas la cause. Alors, traiter la cause, c'est très compliqué, là. De partie de la cause, l'essentiel, c'est d'arrêter déjà cette espèce d'état de rumination et de dépression. Moi, au bout d'une semaine d'un petit traitement antidépresseur, mais léger, hein, c'est pas des doses qu'on donnait il y a 20 ans, souvent les gens me disent « ma mère en a pris, j'en veux pas », etc.
C'est affreux, ouais.
On donne des petites doses, type, je sais pas si on peut le citer, mais type Prozac, enfin des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, voilà, et ça va bien rapidement. Seulement, il faut les prendre longtemps.
Combien de temps, à peu près ?
Au moins 3 à 6 mois.
Ah oui,
c'est
quand même.
Très long. Mmh. Et les accompagner, si on veut faire les choses comme il faut, parce qu'après, il y a toujours les rythmes.
Les accompagner, ça veut dire à faire une psychothérapie, voilà. Aussi, c'est ça, ça c'est nécessaire dans le burn-out avéré, hein, je veux dire.
Absolument, c'est un type de psychothérapie que, bon, moi, au fil des années, je me suis défini ce qu'était la psychothérapie du burn-out. C'est pas classique, c'est pas une analyse, c'est pas, voilà, c'est pas non plus du cognitivisme, comportementalisme. Il faut, moi j'y reste un dialogue avec des gens.
Qu'est-ce que vous faites en séance de psychothérapie pour les burn-out ?
Non seulement je les écoute, mais je discute avec eux. Et j'essaye d'être en phase avec leurs soucis. Voilà. Je ne sais pas comment mieux le définir. Hein. Ce n'est pas, la psychanalyse allongée sur un divan. Les gens s'en plaignent quand on leur envoie comme ça. Parce qu'ils disent, mais non, là, c'est pas du tout ça mon truc.
Et ils parlent que de leur travail, c'est ça ?
Et alors après, on leur explique qu'il y a des phases. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes devenu, par exemple, quelqu'un d'aussi accro au travail. C'est pas n'importe qui. Pourquoi vous êtes perfectionniste ? Alors, êtes-vous perfectionniste ? C'est une question qu'on pose. Je sais pas. On vous a appris quand vous étiez petit, on vous disait vos devoirs, il faut que ce soit fait à l'heure et comme il faut, etc. Sinon.
Et les gens acceptent facilement ces psychothérapies parce que parfois je leur propose, ils disent écoutez, mais moi je suis pas fou, je ne suis pas schizophrène. Ils ont ce côté péjoratif de la psychothérapie et de l'accompagnement qui, au contraire, est indiqué n'est pas lié au fait qu'on soit un malade psychiatrique avancé, même si ce n'est pas non plus une tare non plus.
Alors là, vous posez des questions importantes, parce que déjà, même dans les psychoses, on ne suis pas sûr du tout que la psychothérapie ait la moindre efficacité. Donc, c'est l'évacuation d'une tension, d'une soupape qu'on doit lever. Il faut que le médecin soit habitué aux questions à poser. Et prêt à écouter. Mais à écouter sur des semaines. Hein, moi, je ne vois pas les gens très souvent, je les vois une fois tous les 15 jours à peu près. Je mets en train le traitement pour les libérer, que la parole se libère. Et là, on découvre. Alors là, ça peut aller très loin. Ça peut durer plusieurs années. J'ai des patients qui, comme un psychothérapeute habituel, ça dure longtemps, parce qu'on évoque des choses auxquelles ils n'ont pas pensé.
Et un burn-out professionnel, ça ne peut pas se soigner tout seul. On ne peut pas se dire, bon, allez, je vais me reposer un petit peu, je ne fais rien, pas de médicaments. Non, ça ne se soigne pas tout seul.
Non, ça ne soigne pas tout seul. Ça ne soigne pas non plus en parlant à sa gardienne d'immeuble, ni à son coiffeur. Ça soigne en parlant avec des médecins, avec des gens spécialisés, des psychologues. Voilà. Alors, il y a d'autres méthodes. Il y a des maintenant qui sont très à la mode, comme la sophrologie, comme, on peut aller se détendre en faisant du yoga. Moi, je crois beaucoup au sport comme traitement. Je pense que les gens ont besoin d'aller courir, d'aller dans les salles de sport et qu'ils disent tout ce qui ressort avec l'esprit beaucoup plus clair. Et
ça fait partie du traitement, le sport.
Pour moi, oui, c'est fondamental. Alors, quand ils le font, ils sont souvent contents.
D'accord. Et ça, par contre, c'est très long, vous disiez. Ça peut prendre 6 mois, un an parfois, c'est ça?
Tout ce qui touche le cerveau, c'est long. Même, vous parliez tout à l'heure des schizophrènes, qui sont quand même des maladies beaucoup plus graves, en fait, en elles-mêmes. Toutes ces maladies du cerveau sont très... Le cerveau est un organe très lent, probablement.
Mais ils guérissent, en tout cas. Il y en a
guérissent. Ils guérissent, ils sont contents. Et quand ils sont guéris, ils disent, une nouvelle vie s'ouvre pour moi.
Et donc, quand la nouvelle vie s'ouvre sur eux, c'est le retour au travail. Parce qu'un jour, certains reprennent, heureusement. Il y a quand même des gens qui sont traumatisés à tel point qu'ils n'ont jamais réussi à reprendre le travail. Par contre, vous dites, ça guérit. Mais il y a des cas extrêmes, j'imagine.
Ils ne reprennent pas le travail s'ils sont, par exemple, près de la retraite et que, ils vont faire autre chose, ils vont cultiver leur radis, puis faire, s'occuper de leurs petits-enfants. Mais non, sinon, ils reprennent un travail différent.
Ils reprennent le même travail,
c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas reprendre le même.
Alors, parfois, on n'a pas trop le choix. Donc, on retourne dans la même entreprise et on essaie de faire quoi, alors?
Danger.
D'adapter?
De quoi? Non, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi, dans cette même entreprise, je suis tombé malade? Est-ce que dans une autre, ça me serait arrivé? Peut-être pas. Il y a peut-être une personnalité toxique avec laquelle on ne s'est pas entendu. Ça, c'est...
Donc changer de service, par exemple, ça peut être une solution.
Quand on peut. Si on est chez EDF ou je ne sais pas, la dernière patiente que j'ai vue, c'était aussi une grosse boîte, ça va. Mais quand vous êtes dans une entreprise où il y a 30 personnes...
Il n'y a pas 36 services, oui, effectivement. Jimmy?
Vous dites, ça va, on peut changer de poste. Ça veut donc dire qu'il faut le dire à son supérieur hiérarchique, parce que c'est vécu quand même comme une tare, le burn-out. On est faible quand on a un burn-out. C'est l'idée un peu de la population. Si tu as un burn-out, c'est que tu as craqué, tu n'as pas su subir la pression et répondre à la demande de la société ou en tout cas de l'entreprise dans laquelle tu travailles.
Bien moins que quand tu as un burn-out ou un
bore-out.
Parce que là, le burn-out a une certaine image quand même. Ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, qu'on est très surmené, qu'on est quelqu'un de sérieux.
En général, la hiérarchie finit par être au courant, parce que on a tous eu des gens qui ont été en burn-out, les collègues le finissent par le savoir, c'est ça.
Mais finir par le savoir, est-ce que c'est différent de le dire? Faut-il l'annoncer à ses collègues, à ses supérieurs?
Non, je crois qu'il ne faut pas annoncer. Je déconseille toujours. Par contre, il faut aller voir le médecin du travail, c'est la première chose. Et maintenant, les médecins du travail sont très habitués, font des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce service. J'employais le mot toxique tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a eu là?
Il y a des épidémies parfois avec d'autres personnes.
Voilà, vous êtes la quatrième personne de ce service à avoir des problèmes. Il y en a déjà 3 qui sont partis. Il y en a un qui est au bord du suicide. Vous parliez de suicide tout à l'heure. Attendez, pensez à Orange, quand même. Bon, ça a été le point de départ.
Et quand on reprend le travail après un gros burn-out, vous conseillez aux patients de reprendre à temps complet comme avant? Alors, imaginons, on a réussi à changer de service. Ou est-ce que vaut mieux reprendre en mi-temps thérapeutique ou ce genre de choses? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en général?
Tout à fait. Je pense qu'il faut reprendre en tiers-temps, quand on peut. En mi-temps, très bien. Ça dépend de la pétence qu'on a pour son travail. Mais le fait de travailler doucement, de reprendre doucement, est sûrement une très bonne chose. Parce que ces gens dont on a déjà parlé sont des gens qui aiment bien leur travail. Donc le reprendre doucement, c'est une bonne idée. En plus, il faut qu'ils aient des hobbies. On leur fait développer des hobbies, comme on fait aux enfants de maternelle. On leur dit, faites de la peinture, faites de la pâte à modeler, faites des bracelets en nouilles, etc. On leur apprend à faire des choses pour quitter probablement un petit peu cette obsession du travail.
Et j'imagine que bon, vous en voyez beaucoup des gens qui ont eu des burn-out, c'est votre spécialité. Parfois, le retour à la vie professionnelle, quand ben justement, par exemple, il y a une reconversion, ça peut donner des belles histoires aussi, non ? Des choses incroyables.
Mais oui, il y a une phase tout à fait positive. Hein, je ne parle même pas de ceux... Parce qu'en 1968, par exemple, il y avait les ingénieurs qui partaient dans le Larzac pour élever des moutons. On ne savait pas s'ils étaient en burn-out ou quoi, mais enfin, ça faisait bizarre, tout d'un coup.
Vous avez des cas comme ça de patients qui ont changé totalement de vie et qui sont passionnés aujourd'hui et très heureux.
Ben non, mais moi, j'ai ma sœur qui fait des fromages en Lozère, et ben je crois que je vais y aller. Et je vais aller avec elle, et puis voilà, je laisse tomber le reste. Bon, bah écoutez, on sauve sa peau, hein, pourquoi pas, puis c'est bien, c'est intéressant.
Merci beaucoup, Dr Baumann, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur cet épuisement professionnel, le burn-out, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Je signale de nouveau votre livre, Éliminer la souffrance au travail, chez Josette Lyon Édition. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une maladie génétique héréditaire, l'hémophilie. C'est l'impossibilité pour le sang de coaguler. Que se passe-t-il réellement dans l'organisme des patients atteints et quels en sont les traitements? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de l'hémophilie. Savez-vous ce que c'est précisément que cette maladie génétique héréditaire? Pourquoi le sang ne coagule pas comme il faut? Comment ça soigne? On vous a posé toutes ces questions. C'est notre reporter Benjamin Lévesque qui s'en est chargé. On écoute son micro-trottoir.
Bah, hémophilie, je sais pas. Hémo, j'entends, je comprends homo, il y a un truc avec homo, hémo. C'est au niveau de tête de l'organe génital, j'en sais rien.
Hémophilie, je pense à hématome.
Quand on aime le sang?
Je dirais plutôt au niveau du sang, ouais, dans ce cas-là.
Une personne qui se coupe, c'est très très dangereux, il faut aller à l'hôpital tout de suite.
Généralement, c'est les personnes, quand ils se coupent, je pense que leur sang est très fluide.
C'est une maladie qui touche plus les garçons, c'est une question de chromosomes.
Je sais pas trop, je pense qu'il y a peut-être des gens qui naissent avec. Il existe des médicaments pour coaguler le sang.
Alors Jimmy, on va s'attaquer à l'hémophilie aujourd'hui. D'abord, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire qui est plutôt grave et qui se traduit par le fait de ne pas coaguler. Le sang ne peut pas coaguler et c'est responsable d'accidents hémorragiques, soit spontanés, c'est-à-dire que spontanément, on a des ecchymoses, ou lors d'un petit accident, on se met à faire des hémorragies parfois graves, notamment lorsqu'elles touchent le cerveau ou le ventre. C'est lié au fait que dans notre système de coagulation, on a des facteurs de coagulation qui s'active en cascade.
Ça, c'est naturel. Chez l'hémophile, on l'a tous, normalement.
Et chez l'hémophile, on a deux types. On a l'hémophilie de type A. Il manque un facteur de coagulation. Donc l'hémophilie de type A, c'est la plus fréquente. C'est un garçon sur 5000 naissances. Il manque le facteur de coagulation numéro 8. Chez l'hémophilie de type B, qui est 5 fois plus rare, donc c'est un enfant, un garçon sur 25 000 naissances, on manque un facteur de coagulation qui est le numéro 9. Donc le fait de ne pas avoir ces facteurs de coagulation fait qu'on fait des événements hémorragiques spontanés ou provoqués.
Et c'est toujours très grave, je veux dire, ces patients, ils ont le sang qui ne coagule pas du tout, toujours, tout le temps?
Alors ça dépend de la nature de la mutation génétique à l'origine de la maladie. Le facteur de coagulation peut être absent totalement, accident hémorragique grave, ou être présent et dysfonctionner de façon aléatoire en fonction des gens, et donc avoir des symptômes un peu plus moins importants. On estime que la maladie est sévère dans la moitié des cas, mineure chez 30 à 40% des patients, et modérée chez les autres.
D'accord. Et vous parliez des garçons tout à l'heure, ça veut dire que les filles, elles n'ont jamais d'hémophilie?
Elle est très 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 rare chez la fille, notamment lié au fait que c'est une maladie liée au chromosome X qui se situe, qu'on a plutôt chez les garçons, puisqu'ils n'ont pas, ils ont que ce chromosome X, ils n'ont pas de chromosome Y. Mmh. Donc pour qu'une petite fille soit atteinte, il faudrait qu'elle ait les deux chromosomes X, puisque la fille est XX, soit malade. Donc c'est très extrêmement rare chez la fille, et donc plus fréquent chez les garçons.
Alors, quand l'hémophilie aujourd'hui, ça ne se guérit pas, mais ça se traite quand même, hein, Jimmy?
Alors,
comment?
Il n'y a pas de traitement curatif. On ne guérit pas la maladie, et la maladie est toujours la même, elle est toujours aussi sévère, de la naissance jusqu'à la mort. En revanche, on fait des injections par voie intraveineuse de facteurs de coagulation. Ces facteurs qui nous manquent, on les apporte et on les met en perfusion. L'hémophile de type A a les facteurs 8 qu'on lui propose. Mm-hmm. Et l'hémophile de type B reçoit les facteurs numéro 9.
Et le patient, il se pique tout seul avec ses médicaments ou dans l'hôpital?
Alors, il faut faire 2 à 3 injections par semaine dans les hémophilies qui sont sévères à modérées pour qu'on ait une concentration suffisante à facteurs de coagulation. La recherche espère peut-être que ces facteurs de la coagulation pour être plus stable et les avoir un peu plus longtemps pour avoir moins d'injections. C'est contraignant mais efficace. Les injections, elles sont réalisées au domicile du patient, pas besoin d'aller à l'hôpital, à partir de l'âge de 12 ans
ou par un proche à partir de 4 ans. Donc à partir de 12 ans, le patient peut s'injecter tout seul ses facteurs.
Donc c'est quand même une maladie encore assez contraignante. Merci beaucoup, Dimi. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette maladie. On fera peut-être une émission un de ces jours là-dessus. La recherche fait des progrès quand même, il faut le signaler, avec des nouveaux traitements qui ont un effet coagulant plus long, moins d'injections. On en reparlera peut-être une autre fois. Merci beaucoup. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo, la chronique préférée de Dimi Mohamed. Aujourd'hui, Catherine Blanc répondra à la question d'une jeune femme qui s'interroge sur la fellation. Elle nous dira tout.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Dimi Mohamed. Et pour cette dernière séquence de la mission, elle entre dans le studio à l'instant et on est ravis de l'accueillir. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous allez bien ?
Oui, merveilleusement, merci.
Eh ben, et parfait. Vous ? Ben, écoutez, tout va bien, ça roule. Et vous Dimi, du coup, parce qu'on vous demande quand même aussi...
Ça va toujours bien quand je suis avec vous, tout va bien.
Bon, parfait. Allez, je vous lis la question Catherine d'aujourd'hui. C'est une question qui est donc de Juliette, je vous la lis. J'ai rencontré mon nouveau petit copain il y a 4 mois. Nous avons eu des rapports assez classiques jusqu'à présent. J'aimerais me lancer dans la fellation, mais j'ai peur d'être maladroite. Vous auriez des bons conseils à me donner. Alors Catherine, je sais que vous n'aimez pas d'ailleurs des règles bien établies, toujours, mais bon, est-ce qu'il y a une bonne technique? On va voir. Pourquoi Juliette, d'abord, elle angoisse à l'idée de pratiquer une fellation? Qu'est-ce qui lui fait peur, vous pensez?
Alors, la fellation, c'est intéressant parce que, alors, où les femmes sont dans l'inquiétude parce qu'il y a une sorte de défiance à l'égard du pénis, c'est par rapport à elle que se pose la question, tandis que là, c'est la peur d'être maladroite. Et ça, c'est intéressant parce que, finalement, c'est prendre un pénis dans sa bouche, or nos bouches ont des dents. Et du coup, il y a toujours la peur de mordre, la peur de griffer, la peur de faire du mal, ce qui est évidemment une angoisse chez les hommes réels aussi, une angoisse de castration, une psychique.
De se faire mordre ou se faire griffer, oui.
Voilà. Et chez la femme, c'est comment elle va faire pour être à la fois suffisamment offensive, pour être
agréable,
délicieuse, agréable, excitante, etc., sans risquer à son insu d'exprimer une agressivité ou une envie de manger, puisqu'elle met en bouche de manger cet homme délicieux, finalement, parce que si elles sont dans une relation
si elle a envie
avec
de faire, c'est portée, qu'a priori, elle
portée
l'aime
de
bien.
Passion, voilà, et de risquer tout d'un coup à son insu de perdre la tête et de le manger. En fait, il y a une angoisse chez la femme qui est aussi l'angoisse de l'homme. Et c'est aussi à l'orée de ces deux inquiétudes que se fait toute l'excitation de la fellation.
Dimi ?
Pourtant, quand on mange une glace, on n'a pas peur de croquer dedans, mais bon, c'est peut-être pas sans autre chose. Mais
parce que
là,
sujet,
non, mais là on dit qu'elle a peur, elle est inquiète d'être maladroite et de faire mal. Mais peut-être qu'aussi, elle est peut-être un peu dégoûtée. Peut-être que le goût, l'odeur, bah finalement, ça peut aussi la rebuter. Parfois, ça peut être quelque chose qui bloque.
Oui, alors là, on ne semble pas parler de cet aspect-là. Mais effectivement, la fellation, c'est quand même un face-à-face avec... c'est mettre le nez sur les sexes, hein, c'est et pas toujours avec la bienveillance de tous les hommes quant aux soins à apporter à ce pénis, qui plus est quand un homme n'est pas circoncis, et bien le prépuce peut garder de l'urine, etc. C'est le même organe que l'organe de la miction, donc ça demande quand même un soin particulier. Nous ne vivons
bonne
pas
hygiène,
comme,
on va dire.
Comme les pygmées nus, donc du coup c'est pas oxygéné, du coup c'est renfermé, donc ça demande effectivement d'avoir un soin pour soi. Et c'est toute la découverte, hein, d'une femme. Et puis à la fois, un soin ne veut pas dire perdre aussi l'odeur du corps, parce que ce qui fait la spécificité de nos sexes, c'est aussi l'odeur, l'empreinte olfactive de nos sexes.
Et si elle a envie de se lancer, en même temps, c'est qu'elle doit l'aimer, cet homme, quand même. Enfin, elle doit aimer son odeur, peut-être pas à cet endroit-là, je ne sais pas.
Mais elle doit aimer son odeur, oui, parce que si c'est pour faire une fellation à mon savon, c'est tout à fait autre chose. On n'est pas dans de la sexualité. Ce qui est intéressant dans la sexualité sont aussi les odeurs de la sexualité, mais bien sûr, il faut qu'il y ait que les odeurs de la sexualité.
Il y a aussi la peur de l'éjaculation, éventuellement, parce que ça aussi, ça peut être une angoisse pour les femmes. Elle a peur peut-être que cet homme, il prenne tellement de plaisir et elle n'a peut-être pas envie d'avoir une éjaculation en faisant une fellation, quoi.
Bien sûr, en général, les hommes sont quand même délicats. Ils disent attention, je vais venir, ou arrête, je vais venir, ou tu es trop excitante,
etc. Mais ça peut être une crainte.
Mais ça peut être une crainte parce que la liberté reste pleine et entière de n'aller que là, que jusqu'où on peut aller, où on veut aller, où on assume tranquillement, on n'est pas obligé. Dès lors que l'on a commencé à faire une fellation, de poursuivre.
Bien sûr.
Voilà.
Jimmy ?
Catherine, vous savez qu'on est une émission très pratique, on donne beaucoup d'astuces du quotidien. Est-ce
je
que vous avez
vous vois avec votre petit sourire.
Non, il faut répondre aux gens qui posent des questions.
Alors, votre question, Jimmy.
Ben oui, non, mais qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Est-ce que vous avez une technique ou quelque chose ?
Ah, si voilà. Moi, j'ai une
il
technique.
Il aime bien les fiches techniques. Hein, Jimmy, il a fait médecine, alors il faut lui expliquer les choses simplement, anatomiquement parlant. C'est quoi la méthode pour la fellation parfaite, quoi ? C'est
non,
ça qu'il
alors,
veut savoir.
Alors d'abord, il n'y a pas de fellation parfaite dans le sens où toutes les sensibilités ne sont pas les mêmes. S'il y a des pénis qui aiment être serrés fortement, des pénis qui aiment être caressés délicatement. Donc c'est vraiment d'une personne à une autre, les choses sont très différentes. Donc je crois que c'est surtout observer comment les hommes s'abordent eux-mêmes, comment ils abordent la pénétration, comment quand ils se caressent ou quand ils se masturbent, comment le font-ils, pour comprendre la pression qu'ils aiment, pour comprendre le rythme qu'ils aiment. Parce que le but, c'est pas d'arracher un pénis. Le but, c'est pas ou d'être tellement délicate que, du coup, on renvoie à l'homme qu'il serait trop fragile. Parce que certains auront le sentiment d'être trop fragile si on les tient pas de façon avec vigueur, et d'autres ont le sentiment qu'on veut les déposséder de leur sexe, qui crée une anxiété.
Donc ça s'apprend, ça, c'est finalement...
Vous dites bon, comment on fait pour pas mordre, au moins ?
Eh bien, ça s'apprend dans la relation. Donc, on a bien compris, quand on fait l'amour, comment un homme se touche, se caresse ou le rythme qu'il a. Donc on sait quand on caresse un homme, que ce soit de sa main ou que ce soit de sa bouche, à la fois la pression, à la fois
le rythme qu'il aime.
Voilà, parce qu'on va retrouver avec la salive, on va retrouver la lubrification, avec la langue, on va retrouver les textures à la fois molles et suaves du vagin. Donc c'est retrouver, c'est recréer quelque chose. Et tout à l'heure, vous parliez de glace. Eh bien, pourquoi pas jouer soi-même ? On n'est pas que dans ce que l'on va faire à l'autre, que l'on croit que l'autre attend. C'est aussi le plaisir que l'on a à faire jouer ce pénis dans sa bouche, avec sa langue.
Comme quand on mange une glace.
Non, comme ce qu'on a aimé manger. Comment vous mangez, comment vous promenez la nourriture dans votre bouche pour la goûter, la découvrir, les sensations du gluant, du dur, du sec, du mou. Eh bien, c'est cela que vous remettez en place dans la façon que vous avez d'aborder un pénis et dans le respect de ses propres désirs.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée au blanchiment des dents. Nous verrons en quoi cela consiste, en combien de temps on obtient des résultats et surtout à quel prix. Notre invité, le docteur Christophe Lecard, vous donnera toutes les astuces pour avoir des dents bien blanches.
Europe 1, Mélanie Gomez.